Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est jeudi noir ce soir. Je suis tout seul, Jean-Mathias et Sophie avec piscine. José est aux platines et il a un problème avec le son, ce qui fait que vous n'avez pas pu profiter de notre fantastique jingle. Voilà, et ce soir on a invité Philippe Adam, qui a publié récemment, qui a publié le 2 janvier, Les Impudiques, donc aux éditions Verticales. Et alors c'est un livre que moi j'ai bien aimé. Il m'a fait rire. Enfin bon, moi je peux vous le conseiller. De toute façon, sinon j'aurais pas invité Philippe. Voilà. Et c'est un livre donc Les Impudiques qui peut-être que Philippe va me contredire, c'est pas grave. On va dire qu'il est centré essentiellement sur le sexe. Et ce qui me semblait intéressant aussi dans cette tentative, on a pas tous, mais certains d'entre vous, nous, on a pu lire Sade, on a pu lire Bataille, on a pu lire Apollinaire et quelques autres. Et la littérature érotique a un certain statut, un peu sulfureux, un peu bien vu dans certains milieux académicaux, culturalo-parisiens, etc. Avec une certaine valeur de transgression, du type, ils ont osé écrire sur le sexe, ce sont de grands libérateurs de l'humanité. Mais en même temps, un philosophe comme Foucault, bon, qu'on a souvent critiqué sur cette antenne, mais c'est aussi parce qu'on l'a pas mal lu, remarquait dans son histoire de la sexualité que finalement il y avait maintenant une espèce de discours, enfin en fait non, le discours obligatoire sur le sexe remontait à assez loin, que ce soit dans les manuels de confession donnés aux prêtres qui donnaient carrément des conseils aux prêtres pour obtenir le plus de détails croustillants sur les péchés imaginaires ou réels de leurs ouailles. Et que ce discours sur le sexe a ensuite été transféré à la médecine, puis à la psychanalyse. Et finalement, il y a tout un tas de discours obligatoires sur le sexe. Et aujourd'hui, on le voit dans les médias, un peu partout, dans tous les, regardez par exemple l'été, dans tous les magazines, que ce soit des magazines masculins, féminins ou autres, vous avez des conseils pour avoir une meilleure vie sexuelle. Et donc, les questions que je voudrais poser à Philippe vont tourner autour de ça, parce que, tellement, au milieu de tous ces discours sur le sexe, comment est-ce qu'on peut arriver à écrire de façon juste là-dessus? Ça, ce serait une question. Et après, pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir écrire là-dessus? Alors, peut-être que tu commences par où tu veux, Philippe.
Bon, d'abord, je commence par merci. Merci de cette invitation et d'avoir dit un peu de bien du livre sur la radio sans publicité et ni Dieu ni maître. Hein.
On fait de la publicité pour qui on veut. C'est ça la différence.
Alors, t'as bien raison. Il y a quand même depuis longtemps. Une fausse provocation avec le sexe, une fausse alternative un petit peu. Tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en fait des gens très institutionnels, très protégés, qui vont dire qu'ils sont dans la transgression en citant Bataille, en citant Sade.
Oui, j'avais oublié Catherine Millet dans les exemples que je pouvais donner de littérature.
J'y pensais un peu. Et en fait, alors dans le cas par exemple de Catherine Millet, c'était quand même intéressant parce que c'était sa propre vie. Et c'était quelque chose d'assez spécial. Donc je pense que le succès n'était pas immérité en termes de... Je comprends parfaitement la curiosité de ceux qui ont acheté le livre, même si moi je ne l'ai pas acheté, mais je vois bien pourquoi et je comprends. Mais voilà, donc moi je dirais, c'est un petit peu parler du sexe, c'est souvent la fausse transgression. Alors, pour le moment, je ne vais pas entrer dans la partie plus philosophique, comme tu veux faire parler de Foucault.
Pas forcément.
Mais à propos de cette fausse transgression, pour moi, le point de départ était plus sur du non-dit, mais pas du non-dit qui appellerait une obligation de dire, justement, à la confession du prêtre, etc., mais du non-dit au sens des regards. J'étais très frappé, moi, il m'arrive de croiser des gens que je trouve jolis dans la rue, et je me retourne jamais sur eux pour regarder leurs fesses, ou elles pour regarder leurs fesses, et j'étais très frappé de voir que pas mal de gens le font, en fait, au total, pas non plus la majorité, mais quand même pas mal. Et le point de départ, c'était un peu, qu'est-ce que pense le type qui regarde les fesses d'une fille? Est-ce qu'il pense à quelque chose d'ailleurs? Est-ce qu'il s'imagine quelque chose? Est-ce qu'il la déshabille? Est-ce qu'il s'imagine avec elle? J'en suis pas sûr.
C'est peut-être plutôt un automatisme.
C'est ça. Et donc, c'était un petit peu interroger ce regard-là, le regard des hommes, un petit peu, plus que des femmes au départ, mais le regard des hommes dans le moment où ils sont pleins de désir, quoi. Et alors, le désir, quand on se met de ce point de vue-là, le désir, c'est assez marrant parce que on devient pansexualiste, parce que c'est vrai que le sexe est partout. En fait, Freud, il avait raison. Le sexe, il est quand même vraiment partout. Il est dans les rues, il y passe par plein de petits détails, plein de petits sous-entendus. Et alors après, pour la question de comment en parler bien, alors moi, je vais peut-être pas trop te développer.
Bien, je sais pas.
Parce que mais j'étais pas sûr moi-même de... Toi, je vais pas prétendre que moi, j'ai la bonne façon. Mais il est certain que dans mon cas, j'ai gardé la gêne que j'avais initialement. C'est-à-dire que aussi, un de mes points de départ, c'était un constat très simple. C'est que, en général, on n'a pas tellement d'idées de la vie sexuelle des autres. D'ailleurs, on ne se pose pas forcément la question. Mais on n'en a pas tellement idées parce qu'on part un peu du principe qu'on a tous la même, grosso modo, quoi. Mais parfois, il arrive qu'on ait une confidence parce que quelqu'un a trop bu, parce que quelqu'un est malheureux, parce que le couple se sépare. Alors, on apprend qu'un tel, là, il ne faisait pas ceci, il ne faisait pas cela. Et là, en fait, ces confidences-là, moi, à chaque fois, franchement... elles me mettent mal à l'aise. Mais en même temps, j'ai envie que la personne finisse sa phrase. C'est-à-dire, j'ai pas tellement envie de l'entendre, mais ça me plaît beaucoup de l'entendre. Et c'est cette ambiguïté-là, cette gêne mêlée de curiosité, qui était en fait mon intention. Je voulais restituer ça dans le livre, en fait, oui. En réalité.
Tais-toi, mais continue.
Oui, c'est ça. Et exactement comme quelqu'un qui verrait un accident au bord de la route, oui. Et puis qui dit, il faut pas que je regarde, mais qui regarde.
Et chez ce sein que je ne saurais voir.
Voilà, c'est ça. C'est
Tartuffe.
C'est ça. Et en fait, du coup, moi, je dirais, j'ai un peu une mentalité assez vieille France, de ce point de vue, parce que je pense qu'il y a des gens qui se mettraient pas mal à l'aise d'entendre ces confidences. Moi, oui, et j'ai joué de ça. Et il faut bien avouer que c'est pas fréquent d'avoir des confidences et qu'on est parfois très surpris. Lorsqu'on apprend la réalité des chambres à coucher, quoi, petit peu, ou des vies, des doubles vies,
Alors, t'as basé ton récit, c'est un peu compliqué, ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la forme après.
Ouais.
Mais, tes récits, plutôt, c'est beaucoup d'imaginaire ou des choses que tu as brodé sur des détails que tu avais entendus à droite à gauche?
Alors, c'est très variable selon les entrées.
Oui.
Parce que le texte, effectivement, il faut peut-être décrire un petit peu parce que, il est constitué de textes brefs pour la plupart. Bref, ça veut dire entre deux lignes et puis 10, quoi. Et il est aussi... Donc ces textes brefs sont souvent à entrée unique, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui apparaissent et on ne les retrouvera pas. Et puis parfois, il y a des petits développements. Alors ça peut être sur 4-5 textes qui se retrouvent. On retrouve les mêmes personnages ou les mêmes types de situations. Et puis encore d'autres fois, on a des textes plus longs qui sont un peu des nouvelles, un peu des petites nouvelles qui suivent plus longtemps les personnages. Alors selon les cas... Tu vas avoir parmi les textes des pures fictions, qui peuvent être présentées en fait comme des témoignages, mais c'est du pipeau, c'est de l'imagination. Dans d'autres cas, c'est des choses vraiment entendues, des vraies confidences dont je me souviens, ou parfois entendues dans la rue. Parce que parfois on entend des conversations, des bribes, et puis on dit, ah tiens, étrange. Et puis dans d'autres cas, c'est aussi des faits divers réels. Notamment les choses qui sont les plus développées reposent souvent sur des faits divers réels. Il y a aussi une partie de ces choses que j'ai pu avoir vues, mais avoir vues dans le cadre de films porno. Donc parfois je m'appuie sur des films porno dont je connaîtrais même pas le titre, mais que j'ai vu sur internet ou comme ça pour mon plaisir d'une part, mais pour me documenter surtout.
Surtout, bien sûr. Ouais, non mais il y a des... Oui, je me posais la question en lisant parce que il y a beaucoup de textes que j'ai trouvé très très drôles à cause de certains détails qui sont qui sont terribles, enfin qui sont pas terribles mais vraiment amusants, et d'autres textes et on se dit ça doit exister, et d'autres où on sent que tu pars complètement dans le fantastique. Cette série par exemple que tu fais à la fin où tu sembles imaginer une suite de films pornographiques où la pauvre actrice
Suzanne
envoie des vertes et des pas mûres, bon, il y a un ananas entre autres, et on sent que ça tourne au grand guignol, jusqu'à la chute qui est
sa revanche,
et là on se dit bon, ça c'est complètement imaginaire, mais en même temps ça s'appuie aussi finalement sur une réalité quand même assez sordide, qui est l'industrie du cinéma pornographique. Il y a des tas de niveaux, et un petit peu comme la prostitution, c'est-à-dire il y a peut-être celles qui apprécient et qui sont d'accord et qui en font leur vie, mais il y a aussi toutes celles qui subissent
de
façon démente simplement une industrie du corps humain. Et j'ai bien aimé en fait ce mélange, ces passages.
Alors pour Suzanne dont tu parles, cette série dont tu parles là, le point de départ est un film porno japonais.
Ah oui, oui,
c'est la première entrée, c'est Suzanne et les anguilles.
Oui.
Et en fait, c'est un film japonais que j'ai vu. Et dans lequel tu vois une jeune femme japonaise ordinaire, mais nue, évidemment, sur une chaise, assise sur une chaise, et attachée. Arrivent trois japonais, mais alors pas des japonais minces, trois japonais avec un gros ventre, tous en slip blanc. Et deux d'entre eux portent un seau. Et dans ce seau, on comprend petit à petit qu'il y a des alevins d'anguilles. Et il commence à mettre les alevins d'anguilles vivantes, sur ses cheveux, sur son cou, sur petit à petit dans sa bouche, petit à petit dans son sexe. Et puis il commence à lui en faire avaler pour de vrai. Pour de vrai. Et petit à petit, ils mettent des anguilles. Le second seau, c'est des anguilles, mais cette fois adultes. Et celles-ci, ils en mettent un petit peu dans son sexe, ils en mettent un petit peu dans ses fesses, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose de très désagréable à voir. Mais très, très intriguant en même temps. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Et alors, ça se termine d'une façon qui est complètement affreuse, si tu veux. Les types finissent par baisser leur petit slip blanc. Et là, ils se font tailler une pipe. Et le but, en fait, c'est de lui faire vomir les anguilles. Ouais. Et tu vois ça. Ouais. Alors, évidemment, moi, j'étais très, très, très mal à l'aise en voyant ça. Et il m'est venu l'idée, j'ai rédigé le texte, enfin, j'ai écrit le texte qui décrivait, grosso modo, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film? Et après, il m'a dit l'idée, mais pourquoi ils n'ont pas continué avec du piment? Pourquoi ils n'ont pas continué avec un concombre, un ananas? Pourquoi ils n'ont pas continué avec toutes sortes de choses? Et puis il y a un moment où elle se révolte et les torture tous à son tour. Mais donc la partie, si tu veux, qui est loufoque, c'est la partie effectivement imaginaire, et le point de départ, hélas, est un vrai film de l'industrie pornographique japonaise, qui est quand même spécial dans son genre, puisque c'est quand même il passe des choses que nous on pourrait pas passer en France, j'imagine, ou alors ça serait sous le manteau, ou je sais pas comment on ferait, mais avec des enfants, enfin pas des enfants, mais des jeunes gens de 13 ans, quoi, 12 ans. Il filme beaucoup de viol, c'est un genre à part entière, le film porno de viol, et ça marche bien au Japon, ces trucs-là. Le film porno de, ça s'appelle Shikane, je crois. C'est-à-dire, c'est les gens qui plotent dans les transports en commun. Alors, ils vont louer un bus, et ils payent des figurants, qui sont les... Et puis après, il y a deux, trois acteurs et une ou deux actrices porno qui se font ploter, violer dans le bus.
Oui, c'est sympathique.
Dans l'indifférence générale. Oui. Donc, il y a quand même cette dimension-là qui est... si tu veux, en fait, il me semble, pour revenir un petit peu au point de départ, si quand on lit aujourd'hui, par exemple, Sade, on voit bien que c'est pas réaliste, mais ça, c'est pas grave, il voulait pas l'être. Quand on lit Bataille aussi, ça a pris un coup de vieux, mine de rien, Bataille. Oui. Je trouve, pas forcément les écrits théoriques, mais par contre les écrits romanesques, franchement, ils ont pris un coup de vieux. Parce qu'en fait, ils croyaient encore beaucoup à la transgression, ils croyaient encore beaucoup à la religion.
Ouais, c'était un prêtre défroqué, Bataille.
C'est ça. Et donc l'idée que c'est très... on va aller baiser dans le... comment ça s'appelle déjà, dans les églises, dans le confessionnal. Tout ça, pour nous, ça nous parle moins quand même. Tout le décor tauromachique nous parle moins aussi. Et la langue même, elle a un petit peu vieilli quand même, malgré tout. Enfin, je m'excuse auprès des bataillens, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais la langue, à mon sens, elle a un petit peu vieilli. Et... de nos jours, il me semble que ce qui pourrait être fait concernant la sexualité, c'est simplement d'être réaliste. Et mon ambition, moi, elle était d'être réaliste. Mais ça ne veut pas dire je vais décrire... Et alors, comment être réaliste, hein? C'est le problème. Parce que...
Je pense que, en fait, si tu essayes de le faire, il me semble, en décrivant finalement aussi toutes les situations qui ne sont jamais décrites dans les discours les plus communs. C'est-à-dire, par exemple, l'absence de désir, la frustration... le viol aussi, c'est-à-dire les rapports sexuels non consentis, c'est aussi une dimension de la sexualité actuelle, ou humaine, je sais pas si c'est malheureusement naturel ou si c'est malheureusement culturel, dans les deux cas c'est malheureux, et donc il y a jamais aussi cette espèce de chez Bataille, il y a quand même toujours l'idée derrière le derrière sa transgression que finalement le sexe c'est bien. Mmh. Chez Sade, ben pour ceux qui en profitent, c'est toujours bien aussi. Et on n'a jamais l'impression qu'il se place du côté de ceux qui subissent. Et donc il y a quand même, malgré tout, dans ces discours soi-disant transgressifs, sur la, enfin, ou transgressifs peut-être dans le cas de Sade sur la sexualité, sur cette idée, voilà, la sexualité c'est bien et c'est ce qui va nous libérer. Et peut-être qu'être réaliste, c'est justement montrer qu'à l'état de niveau, non, pas du tout.
Non, pas du tout, c'est ça, oui. Oui, oui.
Est-ce que tu montres bien dans tes récits qui te superposent et qui a, par exemple, il y a ce récit que j'ai bien aimé qui s'appelle Vodka.
Ah oui.
Qui est que j'ai trouvé assez touchant finalement parce que
le
il écrit
pauvre type, là,
le pauvre
se...
type
ouais,
c'est ouais, ça le type ouais. qui se saoule
pour essayer
d'exciter son désir. Il a ses deux amants dans son lit et plus il boit de vodka, moins il y arrive. Et finalement il se retrouve tout seul avec sa vodka.
C'est ça.
Et effectivement, ben ça c'est aussi être réaliste, c'est-à-dire le sexe c'est pas toujours ils se regardèrent dans les yeux, ils se désirèrent et ils firent l'amour comme des bêtes pendant trois jours, comme dans le Surmal de Jarry éventuellement. Tu vois,
c'est ça.
c'est aussi comment dire l'ennui, la peur et l'échec.
La timidité, la pudeur aussi, il y a les complexes aussi, il y a plein de choses qui sont dedans en fait, et qui sont, c'est aussi les modèles sociaux, l'impératif de jouir, l'impératif d'avoir l'air heureux, l'impératif d'avoir d'être un bon coup, tout à l'heure, quand tu parlais de Foucault, c'est vrai que c'est quand même intéressant l'analyse de Foucault au début de l'histoire de la sexualité, là, dans le. Puisqu'au départ, il part de ce qu'on pourrait croire. Et il dit, voilà, on pourrait croire que le sexe, c'est le lieu du non-dit, du secret de famille, du secret de la vie privée. Et que, du coup, la grande découverte, la grande conquête à faire, ça serait de libérer la parole sur l'érotisme. Et puis tout d'un coup, il inverse le point de vue en disant non, en fait, pas du tout, parce que en réalité, ça s'est fait depuis longtemps et ça a même été un impératif, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore, à mon sens, exploré. C'est pas, c'est la dimension du, on pourrait dire des micro-désirs, c'est-à-dire de ce qui est évanescent, de ce qui, le sexe flottant, le sexe qui est là, mais qui ne va rien se passer. Et puis. Et puis aussi cette aberration, qui est peut-être une bonne chose, je m'en sentais, mais en tout cas, moi, qui toujours me trouble quand on voit dans les magazines féminins ou masculins, par exemple, suis-je un bon coup? Êtes-vous un bon coup? Faites le test. les 10 trucs qu'une femme doit savoir pour faire plaisir à un homme, les 15 astuces pour faire plaisir à une femme. Tout ça, ça paraît un peu naïf, mais je pense que ça intéresse quand même le lectorat de ces magazines-là. Et puis, ils ont une façon de parler qui, moi, me fascine, quoi. C'est-à-dire, êtes-vous un bon coup? Mais en même temps, le fait que ça marche un peu...
Il y a plein de gens qui se posent la question. Alors,
c'est ça,
sujet.
C'est ça. Et c'est révélateur de ça.
Donc ils peuvent se dire, oh, on me donne des critères.
Voilà.
Chouette, je vais enfin savoir.
Voilà, parce qu'on
aurait pu me mentir.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a quand même pas mal de gens qui sont persuadés qu'ils sont pas terribles, qu'ils sont nuls ou qu'ils sont pas désirables. Et donc il y a quand même une dimension de frustration, même si on... Elle est sans doute moindre qu'avant, et encore, ça serait, pourquoi je dis ça après tout, peut-être pas, mais il y a une dimension de frustration qui est toujours bien réelle, en dépit de la volonté de faire croire qu'on est tous épanouis, tous bons, et des bons coups, etc. Quoi.
Ah, pour moi, c'est plutôt le... Comment dire, la frustration est produite quasiment par ce type de médias.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que c'est toujours pareil. D'un côté... on condamne à juste titre la pédophilie, et de l'autre côté, sur les affiches de publicité, on nous montre des jeunes filles qui sont à peine majeures,
ouais,
à moitié
nues.
Et c'est ce qu'on nous présente comme désirable. Donc, forcément, entre l'interdit moral extrêmement fort et ce qu'on nous propose comme désirable, il peut y avoir que de la frustration. De la même façon, la façon dont les corps sont traités dans l'image de presse, et aussi par rapport au corps réel.
Il
y a aussi, à mon avis,
un décalage. Il y a un décalage pas très grand chez nous, mais il y a un vrai décalage chez certaines personnes. On est très bien gaulés, mais.
Mais comme on ne nous voit pas souvent dans la presse.
Hélas, ça va. Hélas. En tout cas, rarement de face. Non, mais il y a aussi le fait que cette volonté d'avoir une sexualité à tout prix solaire, enfin épanouie, elle a quelque chose, et puis qui se mesurerait à la performance un peu. Elle a quelque chose qui rappelle un petit peu la salle de sport, quoi, mais la salle de gym, la salle de muscule, quelque chose qui, à mon sens, est complètement dépendant, quoi, enfin rabat-joie.
Ce que chantait Brel, hein. Ceux qui vont confondant l'érotisme et la gymnastique. Et
voilà, bah c'est ça, ouais. Ouais, il y a ça. Après, il y a quand même une sorte de frustration sociale. Enfin, il y a quand même, les gens se croisent beaucoup, ils se regardent pas trop, mais ils se regardent du coin de l'œil. Il y a quand même quelque chose de tourmenté dans le sexe, ce qui fait qu'on n'arrivera jamais à la salle de gym.
À savoir. Peut-être que pour certains, c'est un sport à part entière.
Ah oui, alors ça c'est sûr. Ça c'est certain, oui. Il m'est arrivé de suivre une fois au but de Chaumont un dragueur professionnel. C'était vraiment un exercice sportif pour sa journée, c'était évident. Collecter les numéros, trouver l'angle d'attaque, etc. Je pense que c'est un vrai sport, oui, c'est une discipline. Un vrai séducteur, une vraie séductrice, c'est une discipline, oui. Il ne faut pas se laisser aller.
Il faut s'entraîner,
il ne faut pas perdre la main.
Il ne faut pas perdre la main, il ne faut pas se laisser décourager par les échecs.
Par les 80 premiers échecs, il faut le 80, etc. etc. C'est du boulot.
Dis-moi, José, est-ce que tu peux passer de la musique ou est-ce que c'est toujours pas possible ?
Ce qui était prévu, mais on va faire avec.
D'accord, bon, on va faire une pause.
On avait prévu des musiques lascives, mais.
Voilà, on avait prévu des musiques à thème, mais ouais. Comme on a un problème avec la régie, bon, on va passer à autre chose.
Dans le vent, claqué pour me rappeler qu'elle et toi avez dormi dedans. J'entends votre moulin à café à la fin de vos nuits, et mon petit cœur va s'ébroyer comme un petit colibri. Prends un jour le bon Dieu va te punir, tu seras plus l'objet d'aucun désir. J'espionne vos corps en promenade pour voir comment ils se frottent. J'espionne vos mains vos œillades pour voir comment elles s'enjolent. J'écoute les tangos anciens au petit bal du samedi. Là où ton genou entre les siens creuse le lit de vos envies. Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, Philippe qui est mort de rire et qui se moque de moi en face, et vous écoutez Jeudi Noir, et donc voilà, c'est notre invité, c'est Philippe Adam, qui a écrit Les Impudiques, enfin c'est son dernier roman, parce que, enfin roman, compliqué, c'est son dernier livre, il y en a écrit d'autres que je vous conseille, j'avais lu Jour de Chance, il y a quelques années, qui est consacré aux gagnants du loto, et à ce que ça peut produire comme effet inattendu dans leur existence. Et là, c'est pour un autre livre, c'est Les Impudiques, donc publié aux éditions Verticales. Donc, on abordait un petit peu à bâton rompu différents thèmes en première partie. Et on se disait aussi que ce serait bien peut-être que Philippe, que vous écoutiez certains textes. Alors, tu voudrais lire quoi, Philippe?
Je vais lire un peu comme ça.
Tu veux lire un peu comme ça?
Oui. Je vais dire, je sais pas, 2-3 heures.
On va être viré par Entre Chien et Loup dans une demi-heure environ.
Non, je vais dire un petit peu comme ça pour de vrai. Témoignage. J'étais perdu. J'aurais voulu m'offrir à quelqu'un, mais cette offrande, elle aussi, s'est perdue. Alors je suis resté seul. Il y a des jours, il y a des vies comme ça. Délicatesse. Constatant au matin que sa femme était morte dans leur lit pendant leur sommeil, il a d'abord pleuré, puis il l'a embrassée sur le front, les joues, dans les cheveux. Il l'a chatouillée sous les bras, elle adorait ça. Il lui a massé la nuque et gratouillé le dos, elle aimait ça aussi. Il aurait bien voulu se risquer du côté de l'entrejambe, mais il ne l'a pas fait. La défunte n'y tenait pas. L'atroce retour des choses. Ça me faisait bien rire avant, quand je lisais dans les petites annonces du journal qu'une dame de 67 ans, coquette, ouverte d'esprit, cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur le chemin du bonheur. Qu'un retraité de 74 ans, homme sensible, délicat et attentionné, cherchait même profil pour projet à deux. Ça me faisait bien rire, les Fabiennes, 45 ans, les Francines, 58 ans, les Luciens, 76 ans, étonnamment jeunes d'allure et de caractère. Les Mathieu, 69 ans, curieux de nature, aimant les voyages et danser. Je n'aurais jamais cru parcourir un jour ces annonces en y cherchant la mienne. Je n'aurais jamais pensé un jour me chercher et me retrouver là. Domicile conjugal. Les lattes en bois du sommier neuf cédant une à une, elle lui a suggéré d'y aller mollo. Mollo se ramenant bientôt à peu, puis à rien. Leurs deux corps finissant par se laisser glisser, par terre où tout finit un jour ou l'autre par tomber, comme les pellicules, les miettes, la poussière et les inhibitions. Éclairage. D'abord, ils l'ont fait boire, puis ils lui ont demandé d'être sage et elle s'est endormie. De cette nuit, elle ne se rappelle rien, sinon que la lumière des toilettes, après qu'elle ait vomi, est restée allumée. N'importe quoi. J'avais égaré ma montre, mais Sonia était avec Hubert qui caressait Jean, qui embrassait Paul, qui demandait à Lucille de lui pisser sur la tête. Et ma montre était quelque part là-dedans.
Je trouve que les textes, quand même, si tu veux lire d'autres, c'est avec plaisir, hein, mais il y a quand même souvent une. Enfin, moi, je me suis beaucoup marré en lisant ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi un des trucs assez amusant dans tes écrits, c'est que finalement, on voit bien que ça parle de sexe. En même temps, très très souvent, ça n'en parle pas du tout, parce que c'est plutôt quelque chose qui tourne autour. C'est plutôt du désir, d'ailleurs. Peut-être plutôt du désir que du sexe, en fait.
C'est vrai.
Ton livre. Ouais. Je me l'étais dit hier, et puis j'ai oublié. Mmh. Mais et évidemment, quand on parle du désir, il y a plein de moments où justement c'est comme ces personnages qui attendent. Il y a des vies comme ça, voilà, où finalement on voudrait bien s'offrir à quelqu'un et puis il se passe rien.
C'est ça, ouais. Il y a des jours, il y a des vies comme ça.
Il y a des vies comme ça. Et donc, ça c'était c'est un élément marquant, oui, parce que finalement c'est plus autour du désir qu'autour du sexe.
Oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, je parlais beaucoup de frustration, oui. Etc. C'était parce que, en fait, ou de regard dans la rue, tu sais, la personne ils vont pas coucher ensemble, mais il y a quelque chose dans le regard de l'autre. Et ce truc-là s'appelle le désir.
Ou une agression, ça dépend. Oui.
C'est le Freud qui disait, le Sigmund, qui disait que quand on pensait aux centaines et centaines et centaines d'années qu'il avait fallu pour que, à partir de l'animal qu'on était, se mettent en place les catégories logiques et rationnelles, etc. Il disait, il y a quand même un domaine où, en fait, on voit qu'elles sont mises à mal, ça, c'est la sexualité. C'est-à-dire, il y a, ça, c'est de l'archaïque au sens où, les catégories logiques sont perturbées lorsqu'il y a du désir. Le désir, dès qu'il apparaît, il fait désordre. Parce que justement, il va contre l'ordre. Enfin, pas l'ordre. Je parle pas de l'ordre social, etc. Mais je parle des catégories logiques, en fait. D'où le fait que même des gens très savants, très brillants, qui seraient très sérieux, etc., peuvent tout d'un coup se mettre à faire n'importe quoi quand ils ont du désir et à prendre des décisions les plus absurdes possibles. Donc, c'était un peu ça aussi. Tout d'un coup, l'intrusion de l'absurde, un petit peu. Alors,
un élément perturbateur.
Un élément perturbateur, mais aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'absurdité d'avoir désiré pour rien, ce sentiment-là, l'absurdité de la situation aussi. Comme le gars dont je viens de parler, là, qui a oublié sa montre. Enfin, on voit bien qu'il a participé à une partouze et il ose partout. Il cherche sa montre, mais elle est sous les jambes, donc il est embêté. Donc voilà. Mon but à moi n'était pas de décrire la partouze, par exemple.
Ça se voit, parce que de toute façon, le texte est court. Et
c'est ça.
Il s'agit juste de montrer, en gros, le désordre des corps. Et puis, le souci d'une montre.
Voilà.
Qui est complètement incongru au milieu au milieu d'une partouze.
Mais qui peut arriver.
Oui,
c'est crédible, c'est réaliste. Je veux dire, au sens où c'est la personne, ça peut tout. On peut imaginer que ça a dû arriver. Quelqu'un qui dirait, mais mes clés de voiture, elles sont quelque part dans les matelas là,
ou sous le canapé.
Sous le canapé, ouais.
De toute façon, ce genre de situation, à partir du moment où elles sont possibles, tu peux être sûr qu'elles sont réelles. Quelques détails près.
Voilà, quelqu'un s'y reconnaîtra,
forcément.
Alors après, tu en as qui sont moins. Y a des choses qui sont plus un petit peu des petites farces. Des farces philosophiques, notre bien.
Elles ont une légitimité. Bon, c'est pas des bêtes farces.
Voilà. Par exemple, celle-ci. Zoo. Se promenant au jardin d'acclimatation, il a été surpris de voir que les babouins lui envoyaient des baisers, que les macaques lui offraient leurs fesses, que les gorilles sautaient de branche en branche en lui roulant de grands yeux, que les chimpanzés s'excitaient sur son passage. L'orang-outan seul, dans sa sublime indifférence, le confirmant dans l'idée qu'il n'avait décidément rien à voir avec ces gens-là. Une petite farce sur la différence des espèces. Ou alors, tu vois les situations un petit peu, je dirais un peu adolescentes, mais un petit peu bébêtes. Érotisme alimentaire, je vais couvrir ton corps de crème chantilly, lui avait-il promis. Mais le tube de chantilly qu'il venait d'acheter avait fait un drôle de bruit au moment de l'ouverture. Le mécanisme qui devait ensuite propulser la crème hors du tube semblait avoir préféré la garder pour lui. Rien n'était sorti si ce n'est sa compagne, qui s'était rhabillée en criant qu'elle en avait marre et que c'était, après le pot de crème Nutella moisie, le tube de ketchup badigeonnant les draps, le litre de lait renversé, vraiment le fiasco de trop. Et lui se méfiait, restait seul, allumant une cigarette près de ce tube qu'il soupçonnait maintenant d'être foutu d'exploser, après avoir rendu de si pauvres et de si déloyaux services.
Juste après, dans les farces, t'as contre la psychanalyse.
Eh oui, c'est vrai, oui.
Qui personnellement m'a fait...
C'est vrai. Donc, mais par exemple, tu vois, un peu plus loin, t'as entendu dans la rue, ce soir je solde Stéphanie, demain matin Juliette, ensuite je brade Estelle et Karima, et après je suis tranquille, tout seul au lit, la paix royale. Sincèrement, ça s'est entendu dans la rue. Alors, pas exactement pareil, mais j'ai de fait entendu un type qui disait à un de ses copains, ce soir je solde. Et il avait donné des prénoms, mais j'ai oublié les prénoms, donc j'en ai mis d'autres, mais je solde un tel, et je vais être tranquille chez moi. Donc, ça m'avait un peu fasciné. En plus, moi, je dois te dire que j'habite un premier étage. Et donc, quand la fenêtre est ouverte, parfois, on entend des conversations comme ça. Parce que les gens pensent qu'ils sont...
Oui.
Par exemple, ils sont en couple ou ils sont entre amis. Ils pensent qu'ils ne sont pas écoutés, puisqu'il n'y a personne autour d'eux. Mais ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux.
Avec un enregistreur.
En tout cas, avec un enregistreur dans les oreilles, oui.
Alors, nos auditeurs, faites attention de quoi vous parlez. On ne sait jamais, où vous passez. Si ça se trouve, il y a un écrivain qui vous écoute et qui va reproduire ce que vous dites. Et puis après, vous serez bien embêté.
Vous serez dans le livre.
Vous serez coincé. Et alors, ouais, la question aussi que je m'étais quand même posée, qui est un peu. Peut-être un peu idiote, hein. Mais Amant, t'en as pas eu marre d'écrire sur ces trucs-là?
En fait, j'en avais écrit beaucoup plus.
Ah
et
oui.
On en a retiré pas mal. Parce qu'il y avait beaucoup de doublons, de triplons, de, des choses qui se ressemblaient. Il y avait aussi des lourdeurs, parfois. C'est compliqué, en fait. De... Tu vois, par exemple, le... en écrivant sur le... Pas sur le sexe, justement, mais en écrivant des histoires où le sexe est présent... Et en plus, en essayant d'avoir des petits effets d'humour par moment, ou au moins d'ironie, on a vite peur de tomber dans la bonne blague, quoi.
Oui.
Le côté, Et puis, il y a aussi le problème de, alors, il faut être hétéro, il faut être homo, il faut les différents types de sexualité, comment on les prend en compte.
Ben, j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont tu les traitais.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est, d'une certaine manière, c'est complètement neutralisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans ton texte que ce soit un il, plusieurs il et une elle, deux elles, ça change rien. C'est-à-dire que... Alors après, je sais pas comment on peut, comment on pourrait l'interpréter, mais tu sembles pas faire de différence entre, justement, entre ces types de désirs. C'est-à-dire que le, on a, en lisant, on a l'impression que le désir homosexuel est strictement identique, finalement, au désir hétéro. Voilà, c'est des gens qui se désirent.
Oui.
Et ensuite, ben, dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs, il peut y avoir aussi des échecs cataclysmiques.
Oui.
Ça change rien, finalement. C'est pas ça le, c'est pas ici que l'essentiel passe.
Effectivement.
Et au bout du compte, si on veut décrire de façon réaliste, ben, je pense qu'il y a pas mal de tes textes, sauf quand il y a des descriptions anatomiques ou autres, on pourrait remplacer les L par des IL sans que ça change énormément en termes de tonalité.
D'ailleurs, ça m'est arrivé, moi, de changer les L par des IL ou l'inverse pour des raisons de logique, d'équilibre entre les textes. Parfois, je me dis, ah bah tiens, là, c'est pas pratique, donc allez hop, je change les sexes. Ça changeait pas grand chose. Il y a parfois ça a du sens, mais la plupart du temps, non. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu.
Mais ça aussi, je trouvais ça intéressant en termes de. Comment dire? C'est-à-dire. C'est une forme, c'est les formes c'est les formes réelles du désir humain.
Ouais.
Au bout du compte, et ne pas en mettre une plus en avant qu'une autre, tu les mets un peu en quelque sorte toutes à égalité finalement dans ton bouquin. C'est Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme traitement, enfin comme et le traitement littéraire au sens ça se voit, c'est dans le style que c'est
que ça passe,
Enfin, moi, c'est ce que
tant mieux si ça, parce que moi, je me suis posé, enfin en cours de route, j'avais ce problème, comme je me suis posé la question qui m'a un petit peu torturé à un moment, je me quand même théoriquement, etc. Et finalement, je dirais presque le modèle j'ai trouvé dans la bande dessinée avec un auteur qui s'appelle Ralph Koenig. C'est un auteur allemand, je crois, qui s'appelle Et en fait, il c'est plutôt un auteur de bande dessinée gay. Mais alors c'est fantastique, même les hétéros peuvent adorer ça, quoi. C'est tellement bien fait, c'est tellement drôle, ça parle de tout, c'est et donc finalement que ça soit gay ou on s'en fout très vite. Ça donne du charme parce que c'est les personnages sont marrants aussi parfois à cause de ça, mais très vite on s'en fout, c'est plutôt un message, c'est plutôt une œuvre universelle comme ça. Et puis par ailleurs, moi j'adhère assez volontiers à la thèse de la bisexualité originelle. C'est-à-dire qu'il me paraît une sorte d'évidence. Donc il n'y a pas de différence de désir au fond. Et puis personne n'est vraiment hétéro à 100%, personne n'est vraiment homo à 100%. Enfin, il y a des préférences, il y a des dominantes, il y a des tendances très fortes, parfois très très fortes, etc. Mais il n'y a pas de 100%, quoi. Donc à partir de là, on pouvait mettre un petit peu tout le monde sur le même plan.
Ben c'est intéressant à plusieurs niveaux parce que j'ai l'impression que parfois on pourrait commettre deux erreurs symétriques finalement. Soit ne parler que du désir hétérosexuel et faire comme si le désir homosexuel n'existait pas. Soit partir d'un désir sexuel minoritaire qu'on va valoriser et qu'on va essayer de rendre spécial.
Spécial, oui, c'est ça.
Par rapport aux autres, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un service à lui rendre, à ce désir-là aussi. Enfin, je sais pas. Mais d'un point de vue théorique ou politique, je sais pas trop ce qu'on peut ou doit en penser. Mais j'avais bien aimé, parce que ça, dans ton texte, on passe naturellement, finalement, d'un couple hétéro à un couple homo, quel qu'il soit, et il n'y a pas de rupture de ton.
Juste t'interromps parce que ça m'intéresse, l'histoire du désir spécial dont tu parlais, là. Parce que, en fait, tu vois, moi, j'ai une chance dans cette histoire, c'est que j'ai pas de thèse.
Oui.
J'ai pas de conviction, j'ai rien à défendre, rien à attaquer. J'ai pas de thèse. Donc, pour moi, tout est un petit peu égal, du moment que c'est prétexte à une mise en scène de situation un petit peu équivoque, ou un petit peu désespérée, ou un petit peu loufoque. Mais je sais que, par exemple, pour beaucoup d'hétéros, la sexualité telle qu'ils l'imaginent ou telle qu'elle est chez les homos est un fantasme. Parce qu'ils s'imaginent qu'on baisse comme des lapins, on est en rut tout le temps. Et beaucoup aimeraient que la sexualité telle qu'ils l'imaginent chez les homos soit appliquée chez les hétéros, mais c'est dommage, les filles ne veulent pas.
Je pense que c'est la grande contradiction des homophobes.
Oui, c'est ça.
En particulier masculin, qui en fait rêve d'une sexualité homosexuelle masculine. Avec partenaires multiples, sans obligation, ni contrainte. Et je pense que c'est leur rêve. Et ils peuvent pas s'imaginer qu'en fait les homosexuels sont leur modèle de virilité.
C'est ça.
Parce que ce serait peut-être trop dur pour eux de se dire. Oh là là là, quand même.
Ouais. Alors tu sais, pour ma part, c'est un texte que j'ai en partie écrit à la Villa Médicis à Rome.
Oui, je sais.
Et alors c'est marrant parce que. Quand tu lis, toi, les Pierre Grimal, etc., les historiens de la sexualité romaine antique, tu vois, en fait, qu'il n'y avait pas d'hétéro et pas d'homo au sens où on en parle maintenant. Il y avait les passifs et les actifs. Oui. Et il fallait être actif, c'était ça le vrai enjeu. C'était pas.
Oui. C'est un enjeu politique et éthique. Voilà. À savoir, est-ce qu'on est soumis ou est-ce qu'on est dominant?
Voilà.
Et à partir de là, c'est Foucault qui met ça pas mal en valeur, peut-être à partir de ces historiens que tu cites, là, que j'ai pas lu, Grimal,
oui, Pierre Grimal, ouais, ouais. Je crois que c'est Pierre, ouais.
Et avec l'idée que finalement, chez les antiques, on désire ce qui est beau. Mais le désir n'a pas d'objet prédéfini.
Oui, c'est ça.
C'est juste une qualité qui est la beauté et qui peut se retrouver finalement dans beaucoup de corps.
Voilà. Et alors après, si tu veux, il y a la question des rôles sociaux. C'est-à-dire, selon ta position sociale, selon ton âge, tu peux te faire prendre ou être pris. Mais attention, ça peut être très grave si t'as pas le bon âge ou pas la bonne position sociale pour faire ce genre de bêtises. Donc, il y a des choses qui peuvent être très graves, mais elles sont très graves dans un sens et pas du tout dans l'autre, etc. Donc c'est. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que toi, si tu vas te balader à Rome aujourd'hui où tu vois des Italiens et tout, il y a quand même, ils sont à des années-lumière de leur propre.
Oui.
C'est-à-dire, tu vois, c'est
de leurs propres ancêtres géographiques.
Oui, on est encore dans les couples amants qui se retrouvent en douce sur des parkings, dans des trucs, parce qu'ils osent pas aller à l'hôtel. Ils ont là le poids comme ça du. Alors peut-être de la religion, mais aussi du regard des autres est très très fort. Et donc en fait, tout le monde ment, quoi. Il y a un côté comme ça, mais nous aussi on est un petit peu comme ça dans le côté tout le monde ment. Et ça c'est pas mal aussi. Moi ça m'intéressait ça, insister un peu sur. Tiens, tout à l'heure je te parlais de réalisme.
Oui.
C'était aussi aller. On ment pas. Bon, on va faire le coming out des autres.
c'est toujours plus facile de ne pas mentir au sujet des autres.
C'est ça. Certains vont devoir avouer qu'ils sont hétéros alors qu'ils aimeraient tellement pas en avoir l'air, etc. parce que ça fait beau. certains doivent avouer que ça fait déjà 6 ans qu'ils n'ont pas fait l'amour, mais que ça leur manque pas du tout, etc. etc., etc. Donc, cette dimension-là de description,
ouais.
Pas trop mensongère. De ce que c'est que l'amour ou l'absence d'amour au quotidien, elle était amusante à faire. Donc, alors après, est-ce que je me suis lassé? Ah ben, à un moment, oui, quand même, tu vois. Mais en fait, virtuellement, c'est un texte qui est sans fin. C'est-à-dire que je pourrais très bien, si j'étais en panne d'inspiration, me lancer dans les impudiques 2, les impudiques 3, et j'en sortirais un tous les 3-4 ans, disons. Tu vois, parce que, en fait, des récits, je vais en entendre d'autres.
Oui.
Des fictions, il va m'en venir d'autres à l'esprit. Je peux retourner voir quelques films porno avec plaisir. C'est quelque chose qui est infini, c'est un travail infini. Qui perdrait sans doute de son sens au bout du 4e ou 5e ou 6e, mais ça pourrait être l'œuvre d'une vie à la limite, d'être le. Comment on pourrait appeler ça
Le chroniqueur du cul.
Oui,
le chroniqueur des petits désirs quotidiens.
C'est ça, les plaisirs.
Oui.
Mais tu te souviens d'ailleurs que quand Houellebecq, pas Houellebecq, parce que je raconte, Delerme avait fait son. Oui. Succès qui était, comment dire, c'était la première gorgée de bière.
Et autre petit plaisir quotidien.
Non, et autre plaisir minuscule.
Oui, autre plaisir minuscule. Aussi.
Et ben, dans les quelques mois qui ont suivi, il y avait eu une parodie qui était la première gorgée de sperme.
Ah oui, oui.
Et c'était la première gorgée de sperme, c'est quand même autre chose.
C'était ça le titre. On va faire une pause musicale, José. Et puis, on vous retrouve après pour clôturer l'émission tranquillement. Je vais poser 2-3 autres questions à Philippe.
Les femmes sont assises dans l'hiver. Le long de la radio, sur un dernier travail. C'est tard la nuit, il est déjà dans les 10 heures. Depuis longtemps, dorment dans les chambres glacées des enfants protégés du mal par un signe de croix. Des femmes sont assises dans l'hiver, il fait grand froid. À la gare, on attend encore le train de Combourg et Dole. Dans la prairie, les gitans guettent le sommeil des chevaux. Ils ont plié le cirque dérisoire et ils s'en vont demain. Les maçons ne travailleront pas sans doute à cause du gel. Demain il y a messe pour la jeune fille qui est en deuil. De Nantes vient le givre, avec ses cuivres, il fait grand froid. Paroisse de l'année 60, périphérie de la paix. Femme posée comme une lampe à huile dans le silence. Rassemble dans cet écrin-là tous tes enfants, emporte-les vers le bon Dieu et qu'on ne nous sépare pas. Demande-lui si c'est bien demain que le payeur passe. Et quand va-t-on enfin goudronner la rue, tu as froid. Tu fermes la radio, tu montes en faisant attention dans un endroit que je t'ai préparé dans ma mémoire et qui s'est détaché de moi pour vivre comme une chanson. Où tu es bien parce qu'on ne nous séparera pas.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie qui sera extrêmement brève. Vous venez d'entendre une chanson de Jacques Bertin, je ne connais pas le titre parce qu'on a dû improviser en termes de musique, bon, parce qu'on ne pouvait pas utiliser l'ordinateur. Et donc notre invité est toujours Philippe Adam pour son dernier livre, Les Impudiques, aux éditions Verticales, donc publié le 2 janvier. Donc c'est, on vous l'a dit, Philippe vous a lu quelques passages, c'est des tas de petits récits qui s'enchaînent. Alors après, oui, je m'étais posé une autre question en termes de composition. Comment est-ce que tu as choisi l'ordre des textes?
Eh bien, si tu veux, dans le précédent qui était construit pareil avec des fragments,
Jour de chance,
voilà. Mmh. Je mettais ça au fur et à mesure dans le bon ordre. Mmh. Et là, en fait, j'avais fait le début, puis après j'ai continué à écrire sans faire attention, en me disant je ferai ça plus tard, le mettre en ordre. Et figure-toi qu'après j'ai été très embêté. Ça a été un vrai casse-tête. Donc la première logique, ça a été de ne pas mettre trop à la suite de long. Essayer d'équilibrer par page les brefs, les moyens, les longs, donc déjà ça. Et ensuite de veiller à ce que dans cet équilibre qui est purement de, oui. Je dirais, il est de nombre de lignes, quoi.
Oui, spatial.
Spatial, voilà.
Une mise en page.
De veiller à ce qu'il n'y ait pas deux histoires trop proches, où tout d'un coup, trois histoires, où c'est toujours des... Où, je te dirais une bêtise, dix, où c'est toujours des il.
Oui.
Tu vois, donc c'est des choses comme ça très, très basiques, mais c'est un vrai petit casse-tête à faire. Après, tu vois, je pensais à ça parce que je n'oublie pas qu'on est quand même sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître.
Ni publicité.
Et en fait, je me disais, c'est quand même intéressant parce que moi, j'ai très peu abordé ça dans le livre, mais sauf quelques fois. Il y a une dimension politique quand même dans le sexe qui n'est pas forcément à négliger parfois. Tu vois,
Moi, elle me pose problème parce que je la trouve complètement déterminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame plus ou moins libertin. Enfin, tu vois, dans les sphères autorisées.
Ouais.
Non, j'en pensais à un en particulier.
Ouais, tu pensais à qui? Oh. Ah, non, c'est gênant à dire. Mais tu vois, parfois, justement, je sais pas non plus, j'ai pas de thèse à nouveau là-dessus, mais parfois, ça m'est arrivé d'en jouer un petit peu, par exemple, vie publique, vie privée. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Ça ne m'aurait pourtant pas. Ah bah dis donc, tu vois, je suis un remarquable lecteur de mes textes.
Oui.
Je vais reprendre à zéro. Je rate à nouveau. Vie publique, vie privée. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Ça ne m'aurait pourtant peut-être pas déplu. Il faut croire que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes ou que je n'étais pas franchement politiquement pour. Et le livre s'achève sur une phrase très brève.
Oui.
Qui est « Note sur la vie légère, drôle et facile. Elle n'aura pas lieu. » Et tu vois ça quand même, note sur la vie légère, drôle et facile, elle n'aura pas lieu. Quand j'ai écrit ça, c'est que moi j'aimerais que la vie soit légère, drôle et facile, et qu'on couche avec tout le monde, et qu'il n'y ait pas de problème, et que ça soit... En fait, moi je suis pour l'amour libre. Je ne le pratique pas, mais je suis pour, théoriquement, si tu veux. Je pense que beaucoup de gens d'ailleurs seraient à peu près d'accord avec moi, mais qu'ils n'arriveraient pas à la propriété. Il n'y a peut-être pas de Dieu, mais on se sent, il y a quand même des maîtres un peu malgré tout.
C'est bien le problème. Hein.
C'est bien le...
Ni Dieu ni maître, c'est peut-être parce qu'on rêve tous de s'en débarrasser et que c'est pas facile.
C'est pas facile, ouais. Et en fait, donc tu vois, elle n'aura pas lieu, était vraiment pour moi, c'est une phrase sérieuse. En fait, elle est présentée un peu ironiquement, mais c'est un vrai constat un peu triste du fait que si elle avait lieu, j'en serais peut-être même le premier malheureux. Peut-être que je la trouverais pas si drôle et si légère et si facile. Et tu vois, je sais pas si tu te souviens, mais la célèbre théorie du verre d'eau. Alors ça, c'était au moment de la révolution russe. Tu vois, il y a l'idée que bon, puisqu'on va devenir, tout va être commun, etc. Alors, est-ce qu'aussi il y aura le partage des femmes, etc., et une sexualité complètement libre.
Et le partage des hommes, il l'avait abordé.
Bien sûr, oui. L'idée, ça serait qu'il n'y aurait plus de sentiment de propriété, donc les gens pourraient aller librement où ils veulent, avec qui ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et donc, l'idée, c'était, on pourrait faire l'amour aussi facilement qu'on boit un verre d'eau. Et Lénine écrit surtout Lénine, hein, mais il écrit aussi là-dessus, pour expliquer que dans une société communiste, on ne fera pas l'amour aussi facilement qu'on boit un verre d'eau. Tu vois, ça, tout d'un coup, on dit, non,
ça vaut, de rêver, les mecs.
Ça vaut pour les moyens de production, ça vaut, mais pas pour le rapport au corps. Et finalement, il cherche à sauver le modèle du couple, finalement, le couple hétéro, tout bêtement. Et ce modèle du couple, tu vois, moi je suis en couple, toi je sais pas, mais on voit bien qu'il est quand même, il est inscrit en nous, je veux dire pas naturellement, mais il est inscrit en nous, c'est-à-dire qu'on cherche à faire couple. Quand on n'est pas en couple, on pense qu'on a un petit problème, et on va chercher à faire vite un couple.
Pour découvrir les problèmes du couple.
Pour se plaindre après auprès de... etc. etc. Donc on est quand même... Il y a quand même bien, tu sais, une sociosexualité, quoi, c'est-à-dire le... On est quand même vraiment formaté, quoi, un certain type de désir. C'est des lieux communs, quoi. Mais tu vois, c'est quand même assez intéressant de les mettre en forme.
Des lieux communs, ça a plusieurs sens. Un lieu commun, c'est aussi les lieux qu'on occupe de fait en commun parce qu'on n'a pas trop le choix.
Oui.
De ce point de vue-là, c'est clair que c'est un truc qui m'a fait rire parce que tu disais, j'ai voulu être réaliste et il manque un élément peut-être du réel, ou à moins que je sois complètement naïf et fleur bleue, ce qui est une possibilité.
Tu veux me pousser à écrire le Désimpudique 2, hein.
C'est non, c'est que il y a très peu de gens heureux dans ton texte.
Ah, alors oui, alors ça c'est un problème personnel.
Mais je pense qu'il y en a quand même en réalité des gens heureux.
Oui, c'est sûr.
Après, c'est pas forcément intéressant d'écrire à leur sujet.
C'est ça.
C'est ce que disait, tu sais, c'est Flaubert dans l'éducation sentimentale. Ils furent heureux pendant 3 ans.
Voilà, c'est ça, c'est... passons à autre chose.
C'est réglé. Ça.
Oui, il y a de ça. Puis il y a aussi les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Alors pour raconter une histoire, il faut bien qu'il y ait un peu de drame, quoi. Puis par ailleurs, moi, la sexualité heureuse épanouie, j'y crois pas tellement. C'est-à-dire que... Je pense que c'est un leurre, enfin, tu vois, donc...
D'où la dimension peut-être politique aussi,
ouais,
un leurre qui est peut-être entretenu, ouais.
Espèce de... Comme un horizon, quoi, comme une sorte de...
De normes visant à nous faire culpabiliser, genre vous n'êtes pas heureux, c'est que donc vous n'êtes pas normaux,
oui,
enfin, vous
ouais,
n'êtes pas totalement heureux,
vous n'êtes pas totalement,
totalement épanoui.
Il faut faire un travail sur vous.
Faire un travail sur
ouais,
vous.
Ouais, ouais, ouais.
Il faut toujours faire un travail sur nous, sur le chiant.
Mmh. Donc tu vois, ce rapport comme ça au... Puis tu vois, cette année, par exemple, le texte était fini quand... Mais toutes les tensions autour du mariage, pour oui. tous, etc., c'est quand même intéressant, parce que à chaque fois, ça met en jeu quand même des modèles sexuels, mine de rien, tu vois... Alors après, les gens vont être plus ou moins tradis, plus ou moins libéraux, plus ou moins. Mais il y a quand même bien toujours cette dimension. Puis alors, il y a aussi, on peut prendre le mot politique, tu sais, aussi au sens la politique, le gouvernement, oui. les gens oui. de pouvoir, les notables, etc. Oui. Et là, on voit bien, au moins depuis ça, on pense toujours que c'est dans les hautes sphères que ça part tout, c'est dans les hautes sphères que. Mais c'est aussi dans les hautes sphères que ça moralise.
Oui.
Tu te souviens de ce conseiller, je ne sais plus son nom, de Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur. Qui avait contribué à faire virer les prostituées des boulevards Maréchaux, et qui s'était fait prendre lui-même avec une jeune roumaine mineure.
J'avais oublié cette histoire.
C'était grandiose. Oui. Le père Lamorale était en réalité... Et quand il avait été arrêté par la police, il avait quand même dit... Je ne savais pas qu'elle était mineure, mais par ailleurs, je ne savais pas que c'était une prostituée. Pour moi, j'ai voulu la dépanner, c'est une autostoppeuse. C'est fantastique.
Les impudiques, oui, oui, là, c'est... Effectivement, oui. L'impudeur portée à son maximum. Alors, on va laisser l'antenne à Entre Chien et Loup, qui, je les vois en train de lutter avec l'ordinateur. Donc, c'était... tu vas y arriver, Willy, tu vas y arriver. Donc... Je vous présentais, donc c'était Jeudi Noir, et on vous présentait en compagnie de Philippe Adam son dernier ouvrage, Les Impudiques, aux éditions Verticales. Voilà, et normalement, si tout se passe bien, on vous retrouve dans deux semaines. Au revoir, merci Philippe.
Merci beaucoup.